Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin sur IDFM Radio et nous sommes donc dans notre série de chroniques ou d'émissions « Comment la ville s'adapte au changement climatique ?» et on est vraiment dans l'actualité puisqu'on vient de subir une deuxième canicule et on s'apprête à non pas une canicule mais sûrement une vague de chaleur importante. Et nous recevons donc aujourd'hui Nicolas Naudet, le maire de Soisy-sous-Montmorency. En plus, bonjour monsieur le maire.
Bonjour Olivier.
Et en plus, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui, puisque je crois que ça fait donc un peu plus de 100 jours que vous êtes élu pour votre premier mandat donc de maire à Soisy-sous-Montmorency. Alors, comment ça se passe ?
Eh bien, écoutez, très bien. On a eu 3 mois intensifs, mais 3 mois passionnants, évidemment. On a eu beaucoup de défis à relever qu'on n'attendait pas foncièrement aussi rapides.
Des surprises ?
Ouais, notamment une vague de chaleur, vous avez parlé, aussi forte et aussi longue, c'était pas prévu, même si on l'avait anticipé, ces phénomènes-là dans notre programme. Je crois qu'on aura l'occasion justement d'en parler.
Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Pour la première ou la deuxième vague de chaleur, surtout la plus importante, celle qu'on vient de subir, quelles mesures avez-vous pris, notamment pour accompagner les plus fragiles de Soisy-sous-Montmorency?
Alors, il faut savoir que nous, pendant la campagne municipale, on avait déjà parlé, on avait proposé ce qu'on appelle le plan école fraîche, et donc on avait anticipé effectivement ces problématiques en mettant en avant déjà que les bâtiments actuels n'était pas forcément adapté, préparé ou armé pour faire face à ces grands épisodes, qu'il s'agisse de chaleur ou, au contraire, lorsqu'on a les grands froids qui arrivent en hiver. Et donc, on avait proposé, dans mesure immédiate, de mettre en place ce qu'on appelle des salles refuges, c'est-à-dire une salle climatisée par établissement. Et on a bien fait de s'y atteler assez rapidement, puisque fin mai, toutes nos écoles étaient équipées de cette salle refuge. Et elle a très bien fonctionné, parce qu'on a eu un petit épisode de chaleur déjà fin mai. Une initiative qui a été reprise par nombreuses villes autour, donc on s'en félicite, mais qui, il faut le dire, comme dispositif, a pas foncièrement eu l'efficacité que ça avait eu fin mai, parce que quand vous arrivez au mois de juin avec 40 degrés à l'ombre pendant une semaine, même une climatisation fait pas foncièrement suffisamment d'effet.
Et il y a des volets sur les écoles ou pas?
Alors, sur nos établissements, la plupart ont 50aine d'années maintenant, pour la très grande majorité. Il y a des stores qui ont été mis en place, il y a des films solaires aussi qui ont été posés pour certains établissements. Et donc nous, dans les mesures qu'on avait mises en place, justement, c'était au-delà de cette salle fraîcheur, équiper toutes les salles de climatiseurs, renforcer également les points d'eau, l'ouverture des classes la nuit pour que l'air chaud puisse s'évacuer, parce que c'est un peu la contrainte de ces bâtiments, c'est qu'avec le béton, ils accumulent la chaleur, ils la rendent pas le soir. Et donc, c'est vrai que c'était des conditions difficiles. Ça, c'était pour nos écoliers. Et pour les personnes âgées, on a déclenché le plan canicule, savoir qu'on a un registre de personnes qui sont enregistrées, que on considère évidemment comme fragiles. Et donc, on passe 1 à 2 appels téléphoniques par jour pour s'assurer que tout va bien.
Et en même temps, si on ne répond pas.
Si on répond pas, la police municipale se déplace au domicile des personnes concernées pour s'assurer, effectuer une levée de doute, c'est comme ça que ça s'appelle, pour s'assurer que tout aille bien. Puis on a évidemment maintenu le portage des repas à domicile pour les plus fragiles. Et là aussi, c'est l'occasion de se rendre compte si tout va bien, si l'hydratation est suffisante, si les conditions dans lesquelles les personnes vivent sont pas trop délicates, même si on sait qu'évidemment, avec ces fortes chaleurs, très peu de personnes sont épargnées par cette vague-là.
Pour revenir sur les écoles, monsieur le maire, est-ce qu'il y a des cours oasis dans certaines écoles ou est-ce que c'est en projet pour votre...
Alors justement, c'est en projet, ça fait partie du plan école fraîche. L'idée, c'est déjà de lancer un grand diagnostic sur tous nos bâtiments parce que ils n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques ni même les mêmes contraintes. Et donc, c'est regarder... vraiment, par établissement, quelles sont les solutions qui sont les plus adaptées. On a, par exemple, une école qui est très vieille, qui est en pierre, sur laquelle on va évidemment pas faire d'isolation thermique extérieure. Il faudra trouver un autre procédé, c'est un exemple. On a des cours de récréation qui sont évidemment insuffisamment arborés, qui sont très bitumés, pour ne pas dire quasi exclusivement bitumés, et donc qui font des îlots de chaleur. Là aussi, on va avoir un plan de déploiement progressif, parce que il s'agit pas de faire n'importe quoi, avec un budget qui, on le sait, est toujours plus contraint. notamment au niveau des subventions. Donc il faut voilà bien étudier, pas se précipiter, même si on sait que c'est assez urgent comme sujet. Ce qu'on vise, c'est la pérennité pour les futures années et pas foncièrement répondre à l'instant T.
Vous parliez tout à l'heure de climatiser les salles de l'ensemble des écoles. Donc, j'imagine que c'est sur le mandat ou sur deux mandats.
Alors, on a proposé une salle refuge par établissement.
Ça, c'est fait.
Ça, c'est fait. Climatiser tous les établissements, maintenant toutes les classes, c'est une solution. Mais c'est pas foncièrement la solution, parce que c'est ce que je vous disais aussi. Aujourd'hui, on parle de chaleur. Si on se voit dans 6 mois, probablement qu'on parlera de grand froid. Et dans ce cas-là, on va regarder aussi quel est le degré d'isolation de ces établissements-là, quel est aussi l'incidence sur la facture énergétique. Parce qu'on le voit bien, on est toujours très sujet aux fluctuations des prix de l'énergie. On l'a eu en 2023, 2022, avec le conflit russo-ukrainien. Là, dernièrement, avec le détroit d'Ormuz, donc on n'est jamais à l'abri. Je vous dis, dans un contexte en plus contraint d'un point de vue économique, il faut se poser les bonnes questions, pas que sur les vagues de chaleur, mais aussi sur les vagues de froid. Et donc,
avec de l'isolation.
L'isolation, peut-être clim réversible, à regarder. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on va agir de manière très immédiate pour climatiser notre crèche municipale, parce que même avec des petits climatiseurs d'appoint, c'est très délicat. Les bâtiments sont pas du tout adaptés pour. Et quand on a un public aussi fragile que des nourrissons, bon, évidemment.
Et financièrement, ça se passe bien. Vous avez trouvé.
On est en train justement de faire chiffrer.
La région. Il y a des aides, il y a des subventions.
Ouais, la région Île-de-France a débloqué de manière assez exceptionnelle et très rapide. Valérie Pécresse a mis en place une indemnisation, un remboursement pour les communes qui s'équiperaient justement d'appareils. Alors, ça peut aller jusqu'à 15 000 euros, mais globalement, les premiers chiffres qu'ont annoncé mes services pour juste climatiser une crèche, il y en aurait pour 50 à 60 000 euros. Donc après, il y a EDF aussi qui participe. Donc on essaye voilà d'avoir un petit peu d'astuces, de manière astucieuse, aller chercher un peu là où sont les crédits. Mais il y a des efforts qui peuvent pas attendre non plus qu'il y ait des subventions.
J'ai entendu justement que EDF avait participé à l'aide pour la climatisation d'écoles. Alors je sais pas si c'est sur Paris ou sur toute la France.
C'est sur toute la France. Toute la France. Il y a un budget, je crois, de 80 millions qui a été débloqué. Donc là aussi, c'est regarder dans quelles conditions ça peut s'appliquer. Et puis nous, avoir est-ce que l'équipement d'un climatiseur va être la bonne solution, ou est-ce que avoir quelque chose de réversible, complété avec, on en parlait, une isolation thermique extérieure, est-ce que c'est pas la meilleure solution à regarder?
Alors, on a parlé des bâtiments, on a parlé de l'école, on a parlé des crèches, on a parlé de l'accompagnement des plus fragiles. En ce qui concerne l'espace public, est-ce qu'il y a de la végétalisation, de la désimperméabilisation des sols, de la récupération des eaux de pluie, de la rénovation énergétique, des ombrières? Qu'est-ce que vous avez mis en place ou qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place dans votre commune?
Ouais, c'est plutôt qu'on souhaite mettre en place en 3 mois. C'est vrai qu'on ne peut pas faire de miracle, naturellement. Déjà, on a programmé déjà pour l'année prochaine une évolution liée notamment à l'élagage de nos arbres, qui était historiquement programmé sur des périodes estivales comme celle-ci, ce qui est un peu plus compliqué parce qu'on sait que l'évapotranspiration des arbres est un des facteurs les plus importants pour contribuer à réduire les îlots de chaleur. Soisy a quand même la chance d'être une ville 4 fleurs, la seule du département, et donc ça indique quand même que on a une ville qui est plutôt assez végétalisée. Mais ça veut pas dire que c'est suffisant. Et là, par exemple, où on va avoir un axe de travail le plus important et le plus symbolique, ça va être sur le parvis de l'espace culturel, le trèfle, qui est très minéral, en fait, qui n'est que minéral, et donc sur lequel on est en train de réfléchir pour avoir plus de végétalisation de manière durable. Et puis effectivement, se pose la question pour les cours de récréation, pour ce qui est de l'espace du domaine public, à regarder aussi les essences d'arbres, parce que par le passé, on a beaucoup d'essences d'arbres qui ont été plantées, mais pas foncièrement adaptées, avec des racines qui remontent en surface pour aller capter de l'eau, ce qui a pour vocation d'abîmer la voirie, de la rendre même dangereuse. Donc il y a une réflexion de long terme à avoir sur les essences d'arbres qu'on plante, et naturellement, avec toujours en tête, s'il y a un nouveau projet, comment faire pour que ce ne soit pas un îlot de chaleur.
C'est vrai que c'est très compliqué de planter des arbres, de nouveaux arbres en ville, en zone urbaine, parce qu'il y a des réseaux en dessous, dans le sous-sol.
Aussi,
et Paris, il y a le métro, notamment, c'est ça qui complique aussi les choses. Mais voilà, c'est assez difficile parce que plus moins il y a d'eau et plus les racines ont tendance à aller plus loin, les arbres vont aller plus loin. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est le meilleur climatiseur qui existe aujourd'hui dans l'espace public.
Tout à fait, oui.
En tout cas. Alors, qu'est-ce qui freine le plus, monsieur le maire, à votre avis, l'adaptation ? Est-ce que c'est le financement ? Est-ce que c'est la réglementation ? Ou est-ce que c'est l'acceptation par la population ?
J'ai envie de dire que c'est la réponse se situe au carrefour de ces trois propositions. L'acceptation, je pense que c'est peut-être le levier le moins contraignant parce que ça fait assez consensus pour tout le monde d'avoir une nécessité de végétaliser. Après, effectivement, la réglementation rentre en ligne de compte parce qu'on peut pas faire n'importe quoi et il faut surtout faire attention à ce que ça ne devienne pas un danger, créer un danger pour répondre à une contrainte. C'est surtout la partie financement. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est surtout un logiciel qui évolue. Quand on conçoit des projets d'urbanisme, c'est une dimension qui est maintenant quasi intégrée de tous. Et donc, je veux dire que le plus difficile, en fait, c'est de faire muter l'espace public. Et c'est ça qui est peut-être le plus contraignant, parce que quand c'est déjà installé, quand c'est existant, le faire bouger, ça peut être lourd financièrement et puis après juridiquement, parce que si on n'est pas propriétaire de l'assiette foncière, c'est encore d'autres sujets qui se posent.
Merci, je vous propose une pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après.
Where do you find the night train? Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Alors on se retrouve sur IDFM Radio avec l'émission Mission Planète Terre et on reçoit donc les élus du Val d'Oise pour savoir comment leur commune s'adapte au changement climatique. Donc après cette pause fraîcheur, Monsieur le maire, Nicolas Naudet, donc maire de Soisy-sous-Montmorency, merci encore d'être à nos côtés. On va reprendre notre conversation donc sur l'adaptation de votre ville. Si vous aviez, en tant qu'élu, une demande à faire au gouvernement, ça serait laquelle aujourd'hui? Est-ce que ça serait, par exemple, je ne sais pas, l'adaptation des règles d'urbanisme qui sont peut-être un peu pas suffisamment souples en matière d'adaptation au changement climatique?
Non, je pense que c'est plutôt dans l'accompagnement des communes et notamment sur le soutien financier pour réaliser justement l'évolution et la modernisation de nos bâtiments pour les rendre beaucoup plus résilients, notamment, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure, pas uniquement que sur la période de forte chaleur, là aussi le froid, puisque la consommation, les fluides, c'est un vrai sujet qui pèse également sur les finances. Et l'État a créé un fonds vert à l'époque qui a largement pu être utilisé. Il y avait aussi
Vrai qu'il a été divisé par 3 ou 4. Ben voilà,
la difficulté elle est là effectivement, c'est que ça s'est réduit à peau de chagrin maintenant. Et donc si on veut demander une chose à l'État aujourd'hui, puisqu'on est dans cette thématique là, ce serait celle-ci, de réouvrir plus largement le fonds vert et accompagner à la rénovation des bâtiments qu'on a urgemment besoin au niveau public.
J'entendais ce matin, avant de venir pour cette émission, donc on a un super plan national d'adaptation au changement climatique qui a été préparé, je crois, par le ministre Béchu, qui paraissait très longtemps, mais qui apparemment était un bon ministre de la transition écologique et énergétique. Et ce plan d'adaptation, en fait, c'est à peu près 10 milliards. La facture. Et je crois qu'on a dû faire aujourd'hui pratiquement 1,5 milliard, c'est tout, uniquement sur les 10 milliards. Et la problématique, c'est toujours la même, c'est de trouver les financements et trouver l'argent. Mmh. On parlait d'accompagnement donc de l'État, du gouvernement en matière de finances pour les communes. Mais est-ce que les communes comme les vôtres disposent de moyens humains et techniques suffisants?
Alors, non, évidemment, quand on a des chantiers de telle ampleur, vous n'avez pas foncièrement les ressources en interne pour le faire. Vous faites appel à un cabinet qui va pouvoir d'abord faire l'étude. Et une fois que l'étude est réalisée et que vous avez phasé vos travaux, que ce soit d'un point de vue technique ou financier, ensuite vous lancez une procédure de marché public. Et après, naturellement, il y a la phase opérationnelle. En interne, on peut pas. On a des très bons services, mais qui peuvent faire des petits travaux de menuiserie, de maçonnerie. Là, le chantier est beaucoup trop vaste pour pouvoir être assumé en interne.
Est-ce que vous pensez qu'il faudra renoncer un jour à certains aménagements ou à certaines habitudes? Alors, les habitudes, je pense aussi, par exemple, à notre façon de vivre, à nos horaires, les horaires des services techniques. Je ne sais pas si vous avez adapté les horaires de vos agents. Mais voilà, puisqu'en fait, on sait que dans quelques années, très vite, on va se retrouver avec un climat comme l'Espagne, par exemple, sur la région parisienne. Donc, quelles mesures vous pensez pouvoir mettre en place pour s'adapter à ça?
Je pense
faire la sieste aussi, par exemple.
Par exemple. Bon. Mais vous avez raison. De toute manière, quand il y a des évolutions, si nous, on ne change pas, si nous, on n'évolue pas aussi en conséquence, il est évident que ça va poser de très grandes difficultés. À l'avenir, c'est ce qu'on a fait. De toute manière, on s'est adapté sur ces périodes de forte chaleur qu'on a traversées et qu'on va certainement revivre encore. On a évidemment aménagé les horaires pour tout notre personnel des services techniques et des espaces verts en les faisant commencer beaucoup plus tôt, les faisant finir également plus tôt pour éviter de souffrir avec la chaleur. On a aussi autorisé à tout le personnel administratif en capacité de faire du télétravail, de pouvoir rester à domicile pour le faire. On a aussi aménagé des salles. C'est un peu du bricolage, mais à terme, effectivement, regarder les fréquences, en tout cas le volume horaire, l'amplitude, comment elle s'étale. Et puis, c'est surtout, on a parlé, mais équiper nos bâtiments et les rendre résilients pour qu'on puisse continuer à travailler. Beaucoup de pays ont des épisodes caniculaires, en tout cas des températures nettement plus élevées qu'en France. Et ceux-ci sont adaptés avec des climatisations systématiques dans chacun des bâtiments. C'est une des pistes de réflexion qu'on doit avoir pour maintenir notre travail de qualité. Et je profite quand même de l'occasion pour à nouveau remercier nos services parce qu'ils se sont vraiment mobilisés, ils ont tenu bon alors que beaucoup auraient pu tomber malade, poser des congés, voilà, ne pas faire face à la situation. Et dans notre ville, on a de la chance, nos agents l'ont fait de manière assez brillante.
Selon vous, quelle est la mesure d'adaptation qui est aujourd'hui la plus sous-estimée ?
La plus sous-estimée, je pense que c'est notamment dans le changement des modes, comment dire, de chauffage notamment. Je crois très sincèrement à l'électrification de nos bâtiments, notamment sur les pompes à chaleur, mais tout simplement aussi sur l'autoproduction. On voit de plus en plus qu'on a la capacité sur nos toits, sur des bâtiments communaux qui sont des toits plats, de pouvoir installer des dispositifs notamment de la végétalisation, de la récupération d'eau de pluie ou des panneaux solaires. On a des mesures assez simples qui peuvent être prises, comme tout simplement peindre le toit en blanc, comme ça se fait dans de nombreux pays.
Mais ça fait baisser la température de quelques degrés.
Exactement. Ouais. Mais aujourd'hui, une des grandes difficultés qu'on a, c'est que la majorité de nos bâtiments sont alimentés, chauffés au gaz. Et on voit bien que la dépendance face à une énergie fossile, où le prix, là aussi, fluctue de manière assez conséquente, même s'il reste toujours plus avantageux que l'électricité. Ce sera encore un autre débat qu'on pourra avoir, pour qu'on ait l'électricité si chère alors qu'on est producteur. Mais je pense que c'est aujourd'hui l'avenir, et j'ai pas l'impression que tout le monde s'y résoudre et continue plutôt sur le gaz qui coûte moins cher, même si à terme, je pense que c'est pas la bonne solution.
Quels moyens dont vous disposez, par exemple, avec les promoteurs en matière d'urbanisme? On parlait tout à l'heure de règles d'urbanisme. Est-ce que vous avez de quoi la possibilité de leur demander, par exemple, des toitures végétalisées ou de la peinture blanche sur les toitures pour faire baisser la température, ou des murs végétalisés, ou de participer aussi financièrement à des espaces de verdure, des îlots de fraîcheur?
Effectivement. Le sujet en urbanisme, c'est que il y a quand même la réglementation, et puis il y a derrière la réglementation donc nationale sur le code de l'urbanisme, et puis après vous pouvez prendre des dispositions d'un point de vue local à travers votre PLU. Vous pouvez avoir des indications, vous pouvez avoir quelque part envie de soutenir plutôt un procédé plutôt qu'un autre, mais ça peut pas forcément être contraignant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le permis de construire respecte les prescriptions qui sont opposables, vous pouvez pas foncièrement aller contre. Maintenant, vous pouvez demander effectivement à ce qu'il y ait un soin qui soit apporté. Vous pouvez demander d'avoir des surfaces de pleine terre, ce qui est déjà le cas, plus importantes, effectivement, des prescriptions sur les toits. Ça peut se faire, et aujourd'hui, c'est un des sujets sur lesquels on va se poser, nous, sur la modification de PLU qui est en cours, dans lequel on doit faire notamment une étude d'impact environnemental. Mais on peut œuvrer notamment en offrant, en demandant aux citoyens de planter plus d'arbres dans leur jardin, notamment. Nous aussi, en développant sur des parcelles qui sont pas encore utilisées, pas suffisamment exploitées. Typiquement, on aimerait créer une coulée verte. Ça faisait partie de notre programme qui permette de relier finalement la gare du Champ de Course de Soisy jusqu'à Deuil-la-Barre, en fait, en reprenant
la ancienne Deuil-la-Barre.
Exactement.
Qui a un projet jusqu'à Épinay, je crois.
Tout à fait. Et nous, on aimerait finalement réexploiter les anciens terrains du BIP, puisqu'on sait qu'aujourd'hui le projet est pratiquement mort. Pouvoir les valoriser, les exploiter, en sorte de créer une respiration et d'avoir finalement une interconnexion qui permet d'aller relier les quais de Seine. C'est le projet de la coulée verte de Deuil-la-Barre, mais faire une jonction avec les villes de Montmorency et de Soisy pour qu'on puisse avoir un vrai maillage complet sur le territoire.
Alors, parler de Montmorency, ça me fait penser à la communauté d'Aglo. Est-ce que Plaine-Vallée s'intéresse à l'adaptation du territoire au changement climatique?
Absolument.
Qu'est-ce que Plaine-Vallée vous propose? Comment Plaine-Vallée vous accompagne?
Alors, Plaine-Vallée a mis en place un PCAET, c'est le plan climat, air, énergie. Et dans celui-ci, justement, c'est la prise en compte des énergies non renouvelables, la limitation de l'imperméabilisation des sols. C'est des axes, il y en a 40 qui ont été donnés justement pour pouvoir contribuer à faire développer notre territoire dans ce sens-là. Et donc, ça fait l'objet de réflexions naturellement entre collègues pour notamment cette coulée verte. On en parlait ensemble, puisque là, c'est un projet, une dimension intercommunale. Donc, il y a une multitude d'œuvres, d'axes qui ont été définis, notamment pour réduire, justement, ces îlots de chaleur. En tout cas, c'est toujours la notion de compensation. Si on crée quelque chose qui est source de chaleur ou d'imperméabilisation, il faut qu'on puisse avoir derrière une opération qui vienne réduire cette facture-là finalement.
Sur quel sujet vous considérez que vos communes pourraient davantage coopérer? Alors là, c'est un exemple avec la coulée verte, par exemple, mais sur d'autres sujets.
Celui-ci, je pense, il est vraiment
copier des bonnes pratiques aussi aux autres.
C'est ça. Je pense que, par exemple, même si c'est compliqué, c'est pas toujours évident. Vous voyez, la coopération, on pourrait tout à fait se dire, typiquement, on va tous lancer des études techniques de nos bâtiments pour pouvoir les rendre plus résilients. Mais la spécificité des marchés publics fait que c'est pas foncièrement plus intéressant qu'on crée un grand marché qui puisse profiter à chacun, plutôt que d'en faire un localement. Parce que les besoins sont pas foncièrement les mêmes. Et des fois, les marchés publics font que vous avez quand même des tarifs qui sont un peu plus chers que si vous étiez dans le privé. Ce qui n'est pas normal, mais ce qui malheureusement est aujourd'hui un fait établi. Donc tout n'est pas forcément transposable. Mais aujourd'hui, quand on regarde sur l'agglomération, la police municipale est intercommunale, même si elle est gérée localement. Ça fonctionne plutôt bien. Mais tout n'est pas transposable.
Monsieur le maire, il va falloir conclure cette émission. Donc j'ai une dernière question. Dessinez-nous votre commune dans 20 ans, si les scénarios climatiques se confirment. Donc dans 20 ans, vous serez peut-être encore maire de Soisy, vous serez élu local, peut-être député ou sénateur. Comment voyez-vous votre commune dans 20 ans? J'imagine qu'elle sera adaptée.
J'espère déjà être encore en vie dans 20 ans. On va commencer de manière plus prosaïque.
Faut survivre aux prochaines canicules déjà.
Exactement. Mais dans 20 ans, si effectivement on pouvait avoir tous nos souhaits qui se réalisent pour notre commune, c'est évidemment l'intégralité de nos bâtiments qui soient devenus résilients, qu'on ait pu y avoir une autoconsommation pratiquement sur chacun d'eux, un espace culturel avec une esplanade qui soit beaucoup plus végétalisée et accueillante, cette belle coulée verte qui soit réalisée, et puis pourquoi pas l'arrivée du métro sur notre territoire, la ligne 19 qui relierait Charles de Gaulle à la Défense, qui soit actée et qui passe dans notre commune et qui s'y arrête, surtout à la gare du Chancourt.
C'est prévu pour quelle année, ça?
Bon, les premiers plans font état de 2050.
Ah d'accord, bon, voilà. 50 degrés, 2050.
Bon, on n'espère pas d'ici là.
Ouais. Voilà, merci beaucoup Nicolas Naudet, maire de Soisy-sous-Montmorency, de nous avoir accompagnés ce matin,
donc,
et de nous avoir expliqué comment votre ville est en train de s'adapter au changement climatique. Je remercie Erwan qui m'accompagnait et qui réalise cette émission. Et je vous dis à très bientôt.
Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.
Écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
Regarde tout ce qu'on avait, que nous reste-t-il? La flamme encore allumée vacille. Quand ta vie ne tournera pas rond, je ne serai pas loin. Qu'importe le vent, la saison, je lâcherai pas ta main. Tu seras ma plus belle chanson, mon plus beau refrain, la recette. Si tu reviens, j'aimerais te serrer dans mes bras, te dire que la vie est une fête. Passer nos journées sous les draps, des nuits blanches à perdre la tête. Et on fera comme au cinéma. Sous les bras des nuits.
te fera perdre la raison. Je ne serai pas loin si tu ne retrouves plus ta maison. Je t'indiquerai le chemin. Tu seras ma plus belle chanson, mon plus beau refrain. Ta recette, si tu reviens, j'aimerais te serrer dans mes bras, te dire que la vie est une fête, passer nos journées sous les draps, des nuits blanches à perdre la tête, et on fera comme au cinéma. À perdre la tête et on fera comme au cinéma. C'est toi ma vedette, toi et moi on a la recette.
J'aimerais te serrer dans mes bras, te dire que la vie est une fête, passer nos journées sous les bras, des nuits blanches à perdre.
Thank you. Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
I shake it off.
écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM.
J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Et tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, je m'en vais. Qui perle sur mon front, gouttes de pluie, gouttes de froid, donne des ailes, donne donc l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes, et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes, Dieu que j'ai mal, tourne et tourne dans ma tête. Images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, oh, je m'en vais. Je m'en vais.
IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Yeah.
down. This the part where I turn you all the way around, round, round, round. Put some spirit in it, put your heart into it, that's all I need. And if I like what I see, you're coming home to me. Hey, Mr. DJ, oh, play some for this pretty little lady. Oh, she dances good as she knows that now. I touch my mic on my back.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
J'ai cru que d'autres pas de danse me cacheraient aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes, j'ai voulu tracer mon chemin pour aller plus haut. Je vivais. Je n'ai pas su te dire je t'aime. Le seulement te garder. Il faut aussi dire ce doute. Elle le posait dans d'autres mains.
Sans regarder derrière toi,
J'avais 10 ans à peine, je me demandais pourquoi. En fredonnant des rêves au milieu du chaos, pour combler ce vide qu'il y avait sur les photos.
Je sais, j'ai laissé le silence entre nous. Je me suis noyé dans mes propres démons. J'avais des batailles que tu ne pouvais pas voir, des tempêtes en silence qui dévoraient tous mes soirs. Dis-moi, est-ce qu'il est trop tard?
On n'a plus le même soleil, plus les mêmes étoiles à suivre, mais je porte encore en moi l'histoire qu'on n'a pas su écrire, les mots qu'on n'a pas su se dire tout bas avant tout ça.
Je courais loin de tout ce qu'on était. Plus j'effaçais le peu de choses qui nous restaient. J'ai longtemps cherché les mots pour te parler, pour te dire. Je t'ai laissé mes fardeaux sans pouvoir revenir.
Et moi je t'attendais à la fenêtre en me disant ce soir. Peut-être, mais c'est bête. Ton absence a laissé des cicatrices dans le noir que je cherche à guérir en jouant sur ma guitare.
Avant qu'il ne soit trop tard. On n'a plus le même soleil, plus les mêmes étoiles à suivre, mais je porte encore en moi l'histoire qu'on n'a pas su écrire, les mots qu'on n'a pas su se dire tout bas. Avant tout ça,
j'abandonne.
C'est difficile.
Reste encore.
Je suis sur un fil.
Mais ai-je tort?
On fait tous des choix fragiles.
Pardonne-moi, j'étais perdu. Si loin de toi, si loin de moi aussi.
On n'a plus le même soleil, plus les mêmes étoiles à suivre. Mais je porte encore en moi l'histoire qu'on n'a pas su écrire, les mots qu'on n'a pas su se dire tout bas. Avant tout ça, on n'a plus le même soleil, plus les mêmes étoiles à suivre. Mais je porte encore en moi
l'histoire qu'on n'a pas su écrire, les mots qu'on n'a pas su se dire tout bas.
Avant tout ça, avant tout ça.
IDFM Radio, 98 FM.